Bonsoir à tous. À la une ce soir, Emmanuel Macron salue la signature d'un contrat record de 17 milliards d'euros. Les Émirats Arabes Unis vont acheter 80 avions de combat Rafale. La filière aéronautique se réjouit. La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires, réagit le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot. Vous l'entendrez. La cinquième vague de Covid-19 est bien là. Les contaminations accélèrent en France. Le gouvernement tiendra lundi un conseil de défense sanitaire. Faut-il craindre de nouvelles restrictions? En attendant, l'urgence, c'est le séquençage pour détecter le nouveau variant Omicron. Une dizaine de cas détectés en France, vous entendrez le ministre de la Santé, Olivier Véran. À suivre également, le professeur Didier Raoult écope d'un simple blâme de ses pairs après deux plaintes pour avoir enfreint le code de déontologie médicale. Comment trouver du travail quand on souffre d'un handicap invisible? Une agence met en relation les personnes handicapées et les employeurs. Et puis la Dolce Volta, c'est le nom d'un formidable label de musique classique qui fête ses 10 ans ce week-end. C'est le choix du service culture ce vendredi.
France Inter. C'est la première fois que la France réussit à vendre autant de Rafales d'un coup.
Oui, la première étape de la tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe s'avère très fructueuse. Les Émirats arabes ont signé pour 80 de ces avions de combat fabriqués par Dassault, ainsi que pour 12 hélicoptères Caracal. En tout, le contrat devrait rapporter 17 milliards d'euros et pérenniser la chaîne de production des Rafales jusqu'en 2031. Alors cette signature sonne comme une revanche pour la France après l'annulation par l'Australie en septembre dernier de l'achat de 12 sous-marins français. Christian Chéneau a suivi pour nous à Dubaï ces annonces présidentielles.
Après la déconvenue du contrat de sous-marins à l'Australie, la vente de 80 Rafales aux Émirats apparaît comme une belle compensation pour l'industrie d'armement française, comme le souligne Emmanuel Macron.
C'est le plus gros contrat militaire à composantes françaises de notre histoire, celui que nous signons là. Plus gros que les précédents, et même ceux sur lesquels, à ce stade, il y a des déconvenues. Je reste prudent parce que l'histoire montre que des contrats qui valent pour 18 mois peuvent parfois se dénoncer pour les uns comme pour les autres. Et donc, c'est la plus grosse composante militaire, ce sont les Rafales. Au-delà du remplacement des avions français qui étaient déjà ici présents, ce sont aussi des hélicoptères, ce sont des équipements militaires.
Mais surtout, du côté de Dassault, on se frotte les mains. Les chaînes de production de Mérignac, près de Bordeaux, vont tourner à plein régime, se réjouit Éric Trappier, patron de Dassault Aviation.
On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thalès et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale.
Les Émirats seront le premier pays étranger à mettre en service vers 2026-2027 des Rafales version F4 de la dernière génération.
Christian Chéneau. Et la suite de la tournée présidentielle passe ce soir par le Qatar, avant l'Arabie Saoudite demain. Emmanuel Macron sera l'un des premiers leaders occidentaux à rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Une tournée que lui reprochent donc les organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch, qui appelle le président à interpeller les pays du Golfe sur les violations des droits humains et qui s'interroge également sur la future utilisation de ce matériel militaire. Même son de cloche de la part du candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot. On l'écoute au micro d'Antoine Gignot.
La France est tenue par des engagements internationaux, par des engagements européens. Normalement, on ne vend pas des armes à des dictatures. Vous l'avez vu en Égypte, des technologies françaises, des équipements français ont été utilisés pour tuer des civils. Vous le savez, des équipements militaires français ont été utilisés pour bombarder des civils au Yémen. Dans des pays qui participent d'un islamisme radical qu'on est censé combattre, tout ça n'a pas de sens. Il y a vraiment intérêt à remettre notre politique militaire dans le débat public et sous contrôle du Parlement. Les Françaises et les Français ont le droit de savoir, de s'en emparer, d'en débattre. Et ça doit être à l'Assemblée nationale de trancher.
Yannick Jadot, au micro d'Antoine Gignot.
La sentence est tombée, le professeur Didier Raoult écope d'un blâme de ses pairs.
Oui, c'est à peu près l'équivalent d'une tape sur la main. La chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine a rendu sa décision cet après-midi. Deux plaintes avaient été déposées contre l'infectiologue marseillais pour avoir enfreint le code de déontologie médicale, notamment en faisant la promotion de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19 sans données scientifiques établies. Didier Raoult encourait la radiation. Le blâme est la deuxième sanction la plus légère après le simple avertissement. On y revient dans le journal de 19h d'Hélène Fille. Et la cinquième vague de Covid-19, elle est là. Et bien là, les contaminations accélèrent en France. Le gouvernement tiendra lundi en conseil de défense sanitaire. Notre souhait, notre objectif, c'est de pouvoir passer Noël ensemble, a rassuré ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. À ce stade, aucune décision n'a été prise d'avancer les vacances de Noël pour freiner la circulation du virus dans les écoles. À noter que la Belgique vient de décider de fermer ses écoles maternelles et primaires une semaine plus tôt que prévu, c'est-à-dire le 18 décembre, en même temps donc que les vacances françaises. Pas de précipitation donc au gouvernement, et ce malgré l'émergence du variant Omicron. Une dizaine de cas ont été identifiés en France, et ce n'est sans doute qu'un début. À Lyon, cet après-midi, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, visitaient un laboratoire de séquençage des variants du Covid. Le laboratoire de l'hôpital de la Croix-Rousse héberge une des quatre plateformes françaises de séquençage qui tourne, vous vous en doutez, à plein régime ces derniers jours. Reportage de Mathilde Imberti.
On vous envoie le prélèvement.
Tous les variants sont passés par cette plateforme de haut débit des hospices civils de Lyon depuis le début de l'épidémie. En ce moment, elle séquence en urgence les cas suspects du dernier variant. Laurence Josset en est la responsable.
On a eu le résultat de notre première séquence hier à 14h. C'était un prélèvement qui était arrivé deux jours avant d'un patient qui revenait d'Afrique du Sud. On a quasiment 2500 prélèvements par semaine. Donc on priorise les urgences en fonction de l'actualité, d'où reviennent les patients, leur profil PCR, etc.
Et ce variant Omicron reste une interrogation.
Pour l'instant, on manque beaucoup de données. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de mutations sur la spike qui est la partie qui est reconnu par les anticorps. Donc on imagine qu'il va échapper peut-être partiellement aux anticorps, soit monoclonaux pour les traitements de patients, soit post-vaccination. C'est ça qui inquiète un peu. Après, cette partie du virus, c'est aussi celle qui lie les récepteurs des cellules pour rentrer dans la cellule. Et donc ici, il a beaucoup changé, peut-être qu'il peut moins aussi rentrer dans la cellule et finalement peut-être être moins contagieux, mais ça reste à démontrer.
À l'occasion de cette visite, le ministre de la Santé, Olivier Véran, confirme le nombre de cas avérés de variants.
Une dizaine de cas. Ce qui est fondamental, c'est qu'à chaque fois qu'on identifie des cas, on remonte les chaînes de contamination, on isole pour éviter que ces variants ne se diffusent.
Et leur nombre devrait doubler d'ici quelques heures, prédit le professeur lyonnais Bruno Lina, membre du conseil scientifique. Guide de cette visite ministérielle. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et pour refermer cette page Covid, va-t-on vers un élargissement de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans? Le ministre de la Santé, qui avait en Lyon, était sur France Info ce matin, suggère une ouverture progressive dès la mi-décembre pour les enfants qui ont des facteurs de risques associés, avant un élargissement à tous les enfants de cette tranche d'âge en janvier. Tout dépendra de l'arrivage des doses et de l'avis de la Haute Autorité de Santé.
Valérie Pécresse ou Éric Ciotti? Les adhérents LR ont encore quelques heures pour choisir leur candidat à la présidentielle.
Oui, le vainqueur de ce second tour surprise sera révélé demain à 14h30, une demi-heure après la clôture du scrutin. Et tandis qu'Éric Zemmour, après l'annonce de sa candidature, s'apprête à tenir dimanche son premier meeting de candidat, Marine Le Pen, elle, a choisi de prendre le large. La candidate du Rassemblement National est en Pologne, à l'invitation du Parti conservateur au pouvoir. Objectif, faire avancer avec d'autres partis nationalistes le projet de supergroupe au Parlement européen. Marine Le Pen compte bien également montrer sa différence avec Éric Zemmour, très mal accueilli récemment à Londres et Genève. Elle est reçue en Pologne avec les honneurs à Varsovie, Élodie Forêt.
Gyrophare et cortège officiel pour Marine Le Pen. La candidate RN, accompagnée par la garnison militaire, dépose des gerbes devant le monument commémorant les héros du ghetto de Varsovie, puis devant celui qui rend hommage aux victimes de l'invasion soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Avant de rejoindre ce soir le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui l'a convié à dîner avec d'autres leaders de partis nationalistes européens, dress code business casual, décontracté, et au menu le projet de supergroupe, loin du tumulte de la campagne en France.
Je ne sais pas de me placer au-dessus de la mêlée, mais si vous voulez, moi, il s'avère que je suis une ancienne présidente de mouvement, une candidate à la présidentielle qui a des alliés en Europe et qui considère que le combat mené au niveau européen est un combat absolument fondamental. Il est évident que me présentant pour la troisième fois à l'élection présidentielle, j'ai acquis aujourd'hui un statut politique qui n'est plus contesté par personne.
Un statut de femme d'État, c'est ce que revendique aujourd'hui Marine Le Pen. C'est ce qu'elle vient chercher dans ses visites à l'étranger. Et ce sera d'ailleurs certainement le nouveau slogan de la campagne à partir de janvier.
Élodie Forêt, depuis Varsovie, j'ajoute que la visite de Marine Le Pen en Pologne se poursuit demain. Quand on parle de handicap, on pense souvent à des personnes en fauteuil roulant, mais le handicap peut aussi être invisible, comme les maladies chroniques ou les troubles cognitifs. Et pour les personnes qui en sont porteuses, l'accès à l'emploi ressemble aussi souvent à un parcours du combattant. En cette journée mondiale des personnes handicapées, Zoom sur une agence qui les met en relation avec des entreprises. L'entreprise intérim Randstad a créé il y a 2 ans l'agence Cliff, qui propose un accompagnement personnalisé. Le reportage de Kathleen Comte en Seine-Saint-Denis.
Saint-Denis, agence Cliff, bonjour. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, comme type de poste ?
Dans l'agence de Saint-Denis, 3 personnes composent la petite équipe de Cliff. Elles accompagnent des demandeurs d'emploi en situation de handicap, des handicaps visibles, mais pas seulement.
Des gens qui sont dyslexiques ou dyscalculiques, ça, c'est un handicap, par exemple.
Le diabète aussi, des autistes Asperger, vous n'allez pas le déceler.
Aline Crépin est la directrice générale de Cliff et face à elle, souvent, des gens qui n'ont plus confiance.
Je pense que c'est des gens qui ont eu tellement l'habitude qu'on leur dise non, du coup, ils n'osent même plus demander.
Et parmi ceux qui osent encore, certains préfèrent cacher leur handicap, quitte à se mettre parfois en difficulté.
À partir du moment justement où il n'est pas visible, ils ne le déclarent pas, parce qu'ils se disent que le déclarer peut être un frein à l'emploi. Donc du coup, ils sont mis parfois en danger, ils ont poussé leur force au bout, ils sont allés trop loin en fait.
Le rôle de l'agence est donc aussi et surtout d'aménager les postes au profil des candidats.
Ce qui est difficile avec les handicaps invisibles, alors là côté client plutôt, c'est que les gens ne comprennent pas toujours que la personne justement a un handicap. Pourquoi cette personne va pouvoir avoir des horaires décalés par exemple ? Si on ne fait pas attention à la façon dont on doit aménager le poste de travail, les horaires de travail, la façon de travailler, vous pouvez mettre les gens en échec en fait.
Une personne en situation de handicap sur 4 qui est passée par l'agence a obtenu un CDD ou un CDI.
Et Cliff, actuellement présente à Lyon et en Seine-Saint-Denis, espère ouvrir 5 nouvelles agences d'ici fin 2023. C'est parti pour le Téléthon. Le lancement officiel à la télévision, c'est tout à l'heure sur France 2 à 18h45. Mais vous pouvez déjà donner en appelant le 36 37 ou sur Internet. L'an dernier, 78 millions d'euros avaient été récoltés pour faire avancer les traitements et la recherche contre les maladies rares.
De la musique pour terminer, Corinne.
Oui,
avec un label tout doux.
Oh non, magnifique, la Dolce Volta, c'est pas la vie que je veux mener avec toi, presque ça. Elle fête ce week-end son 10e anniversaire avec 6 concerts salle Gaveau. C'est donc un label indépendant qui croit encore à l'objet disque, à contre-courant de la tendance à la dématérialisation. Et c'est le choix culturel de ce vendredi signé Stéphane Capron.
Il avait besoin du petit check-up de... Petit check-up de rentrée.
L'alto d'Adrien Lamarca est prêt pour fêter l'anniversaire du label Dolce Volta, créé en 2011 par Michael Ada, avec l'envie d'être au service des artistes.
Nous sommes une maison de résistance avec fougue. Sur ces enregistrements, sur ces produits physiques, nous vendons plus de disques physiques, donc dans des boîtiers, que sur les plateformes, contrairement à tous nos concurrents.
La Dolce Volta, c'est une grande famille de toute génération, dans tous les styles du classique et au-delà. Les artistes dont Adrien Lamarca ont carte blanche pour réaliser leur projet.
Tous les artistes de la Dolce Volta sont très heureux d'être faire partie de cette famille, de ce label qui nous laisse énormément de liberté, qui vraiment tient à cette qualité artistique aussi, on le voit dans la qualité de ses disques. L'objet est très beau et ça c'est quelque chose quand on est artiste qui est extrêmement plaisant, de pas faire les choses à la va-vite, de faire les choses bien en prenant le temps, en réfléchissant et en se donnant les moyens.
Tous les artistes de la Dolce Volta auront une pensée ce week-end pour celui qui a été l'un des premiers à faire confiance au label, le pianiste Aldo Ciccolini, qui a enregistré ses 3 derniers disques avant de mourir en 2015.
On en a bavé sur cette marche turque, je ne sais pas vous Claire,
ah,
mais
c'est beau.
Les cours de piano,
c'est très, très beau,
des petits souvenirs de la marche turque de Mozart par Aldo Ciccolini et les 10 ans de la Dolce Volta, c'est ce week-end à la salle Gaveau à Paris, reportage en coulisses intégral à découvrir demain à 6h50 dans le 6-9 du week-end.
Merci Corinne, on vous souhaite un week-end tout doux, hein, par exemple, voilà. On va voir ce que ça donne du côté du temps.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Tout doux peut-être pas, mais perturbé.
Oui, avec des pluies qui traversent le pays ce soir et cette nuit. Un petit peu de neige temporaire dans l'Est avant l'arrivée de la pluie justement. Demain, il pleuvra du sud-ouest aux régions de l'Est le matin avec du vent, de la neige vers 1800 mètres. L'après-midi, ce temps se décalera sur la façade Est. Et puis ailleurs, c'est un ciel changeant qui prendra le relais avec encore beaucoup de vent, des averses. Sur le nord-ouest, elles seront fréquentes le matin, parfois avec du grésil et de l'orage.
Et des nuages en Méditerranée.
Oui, ils s'imposeront en effet. Quelques pluies éparses possibles. possible du vent jusqu'à 70 à 90 km à l'heure. Et puis pour les températures, là on peut se consoler un petit peu puisqu'on aura 2 à 7 degrés le matin, 7 à 13 l'après-midi, 11 à 17 en Méditerranée. Et puis dimanche, ce sera encore agité avec des averses, de la neige à basse altitude puisque les températures vont à nouveau baisser.